Si vous avez envie de travailler sur un porte-avions, notamment sur le fleuron de la marine française qu'est le Charles de Gaulle, vous avez deux options. Soit vous engagez dans la marine nationale, soit entrer chez Naval Group, qui réalise les grands chantiers de maintenance et de modernisation du porte-avions, et qui va construire dans les années qui viennent son successeur, le porte-avions de nouvelle génération, prévu pour 2038. En attendant, vous pouvez participer à ce projet en rejoignant les 18 000 collaborateurs de Naval Group en France et à l'international, en allant voir les offres d'emploi sur naval-group.com à l'onglet carrière. Bonjour à toutes et tous. Aujourd'hui, pour ce nouvel épisode dans le viseur, en partenariat aujourd'hui avec l'école de guerre, j'ai le plaisir de recevoir le commandant Guillaume. Donc bonjour.
Bonjour.
Alors vous êtes officier de bataillon dans l'armée de terre, cette année évidemment à l'école de guerre, et vous êtes aujourd'hui ici pour nous raconter donc un épisode, un événement de souvenir, d'opération, en tout cas de vie militaire. Aujourd'hui, alors je crois que ça remonte un peu maintenant, ça remonte à 2013. Alors racontez-nous peut-être où et quand. D'abord peut-être dites-nous, vous étiez dans quelle unité à l'époque, dans quel régiment ?
Donc je servais au 2e REP et nous sommes partis.
Alors REP, on va peut-être préciser tout de suite, c'est régiment étranger de parachutistes, donc ce sont les parachutistes de la Légion étrangère, c'est
exactement. Et avec ce régiment, je suis parti en opération sur alerte en 2013 au Mali.
Donc 2013 Mali, c'est donc l'opération Serval.
Exactement.
Alors pourquoi alerte ? Qu'est-ce qui s'était passé ?
Eh bien en fait, le président avait souhaité répondre à la demande des autorités maliennes et avait donc déclenché des forces françaises pour faire front, stopper la menace sur le régime de Bamako, menace qui venait du nord. Les insurgés...
Donc on se rappelle, c'était les moments où ils progressaient, où ils prenaient Tombouctou, ils ont détruit des bâtiments.
Exactement, c'était après la prise de Tombouctou.
Et donc c'est le moment où il fallait les arrêter, quoi, parce que de toute évidence, le régime malien n'arrivait pas...
Il fallait les arrêter pour stabiliser le régime malien. Et c'est dans ce cadre-là que le président a décidé d'envoyer des forces armées au Mali. Et au sein de ces forces armées, le régiment dans lequel je servais, est parti en alerte.
Alors il est parti... C'est-à-dire vous étiez en France ?
On était en France.
Ok.
Donc on était en France sous régime d'alerte, comme l'armée entretient régulièrement ses régiments avec une capacité d'alerte.
Alors c'est très intéressant. Donc le deuxième REP, votre régiment, il est où ?
Il est stationné à Calvi.
Ok, donc vous êtes en alerte à Calvi.
Exactement.
On vous prévient, vous faites quoi ? Vous passez par Paris, vous partez directement pour le Mali. Comment ça se passe, quoi ?
Alors, on fait nos sacs. Ouais. En réalité, nos sacs sont déjà presque bouclés, donc on prend armes et bagages.
Mais vous vous souvenez, quoi ? C'était à quelle heure et à Calvi ?
Ah, je ne me souviens plus. Je me souviens simplement que la vie quotidienne s'est interrompue, que le chef de corps a prévenu tout le monde que l'alerte allait être déclenchée. Et à partir de ce moment-là, tout le branle-bas de combat se met en place pour pouvoir permettre justement d'honorer notre contrat qui est justement notre capacité à partir en alerte.
Mais donc c'est le contrat, mais c'est entre le branle-bas de combat et le décollage de l'avion, il y a combien de temps ?
Alors ça dépend des alertes.
Mais là, en l'occurrence
À ce moment-là, nous étions sur une alerte de très court préavis, c'est-à-dire moins de 24 heures pour partir. Le régiment était prêt, mais les décisions, le timing, les besoins opérationnels nous a fait nous déplacer, je ne sais plus exactement, pas le jour même, le lendemain peut-être ou le surlendemain.
Ok, donc vous partez, vous arrivez au Mali. Alors le truc, c'est qu'en plus le Mali, on sait que c'est un environnement un peu particulier, quoi. Enfin, c'est le désert. Enfin, bon, ça dépend des endroits, mais c'est quand même un régime très désertique. Quand vous êtes en alerte, vous savez que vous êtes en alerte pour le Mali,
c'est-à-dire pas du tout.
Ah ouais, d'accord. Aussi bien vous partiez en Afghanistan que...
Exactement. Et c'est une capacité qui est maintenue aujourd'hui en France. Si demain il fallait une intervention dans un pays où on n'a pas l'habitude d'aller, quelle que soit sa distance, les conditions climatiques, les régiments qui sont d'alerte sont prêts à partir n'importe où.
Ok, donc là vous partez pour le Mali en 24-48 heures, quoi. Oui. Vous arrivez au Mali, il fait chaud déjà, j'imagine.
Oui, il fait chaud. Ouais. cette période, les températures montaient dans les 50 degrés.
Ouais, donc il fait chaud. Même en partant de Corse, il y a un petit décalage de température. Et quand vous arrivez au Mali, qu'est-ce qui se passe? C'est-à-dire sur quoi est-ce qu'on vous envoie? Quel était le besoin et où est-ce que vous arrivez?
Alors, en l'occurrence, on a eu plusieurs opérations au Mali, mais celle dont je vais vous parler aujourd'hui est la première opération que nous avons conduite dans le nord-est malien. Un massif montagneux qui est à la frontière avec l'Algérie et qui s'appelle l'Adrar des Iforas.
D'accord. Donc c'est pas le désert, c'est la montagne, quoi.
Eh bien, en fait, c'est la montagne qui côtoie le désert. On est déployé au Nord-Mali, on est prêt à conduire différentes opérations et en fait, on est exactement à mi-chemin entre désert et montagne. Voilà.
Et du coup... Alors, déjà, premier truc, vous êtes parachutiste, donc c'est un régiment de parachutistes. L'élément parachutiste, enfin, je sais pas, on vous parachute pas, quoi. C'est juste qu'on vous envoie dans un endroit.
Dans le nord-est malien, nous n'avons pas été parachutés.
Une capacité que vous employez ou pas, mais là, en l'occurrence,
exactement.
Vous n'employez pas.
La spécificité du parachutage, que l'on appelle dans l'armée les troupes aéroportées, c'est un moyen de mise en place. C'est la capacité pour la France, c'est l'assurance de la capacité pour la France de déployer une force dans des endroits qui peuvent être difficilement accessibles par la route. Et c'est dans ce cadre-là d'ailleurs que nous avions déjà été parachutés sur Tombouctou.
D'accord. Ah oui, après la prise de Tombouctou, pour reprendre Tombouctou.
Exactement.
Mais bon, donc ça, on a compris que c'est une autre histoire.
Une autre histoire.
Mais alors du coup, donc on vous envoie, on ne vous parachute pas, mais on vous envoie vers cette zone montagneuse et aride. On vous envoie faire quoi?
On nous envoie parce que les états-majors pensent que c'est dans cette zone, connue pour être une zone de retranchement rebelle, que l'ennemi s'est retranché. En fait, l'Adrar, le massif des Iforas, historiquement... C'est un endroit dans lequel les rébellions Touareg ont l'habitude de construire, d'ériger leur sanctuaire. Donc potentiellement, l'ennemi que l'on n'a pas rencontré s'est en fait retranché. Il a préservé toutes ses capacités. Et c'est vrai que l'Adrar des Iforas est un lieu où l'ennemi peut-être ne s'attendait pas à ce que l'on aille le chercher.
Mais c'est-à-dire, on sait, ou on ne sait pas d'ailleurs, mais enfin, on sait que c'est des groupes très mobiles, qui sont souvent en pick-up, qui se déplacent assez rapidement, et l'idée c'est qu'ils allaient se planquer dans la montagne, et que pour être à l'abri de, quoi, oui. des yeux, et notamment des capacités 3D de la France, quoi.
En fait, l'idée, c'est exactement ça, c'est de se mettre à l'abri, c'est de s'enfermer dans ce qu'on a coutume d'appeler un sanctuaire, une zone particulièrement aride, avec des conditions climatiques difficiles, comme vous les avez mentionnées, et une zone où le soldat occidental n'était pas attendu, parce que une zone très rocailleuse, très cassante, usante, pas d'eau, difficile d'accès, qui nécessitait l'engagement de troupes à pied. Et c'est justement pour ça que cette zone était une zone de retranchement pour nos adversaires.
Mais alors du coup, quand vous dites ratissage, ça veut dire que donc, vous allez dans ce massif pour essayer de chercher des groupes Touareg. Est-ce que vous avez une idée de ce que vous cherchez ou est-ce que, bon, on va pas le dire comme ça, mais est-ce que dans une certaine mesure, vous y allez en attendant de vous faire tirer dessus et à ce moment-là, vous aurez trouvé l'ennemi, quoi?
Alors à ce moment-là, on ne faisait pas de ratissage. À ce moment-là, on savait exactement ce que l'on cherchait. Ce que l'on cherchait... c'était soit des djihadistes islamistes affiliés à Al-Qaïda au Maghreb islamiste, soit des rebelles islamistes affiliés à Ansaruddin. Et donc, on savait ce que l'on cherchait. Alors évidemment...
Et vous ne saviez pas où les chercher?
Alors, on ne savait pas où les chercher. On savait qu'il pouvait être là, on n'avait pas la certitude qu'il serait là, et puis on savait aussi que l'environnement était un lieu de fréquentation et d'habitation naturelle pour les populations touareg.
Donc vous y allez, et donc quoi, vous passez par les villages vous...
Alors que se passe-t-il ce jour-là? Ce jour-là, je suis à la tête d'une force commando, une trentaine d'hommes, un petit peu moins, 25, 26 hommes. J'ai à mon profit un peloton du régiment de chars qui était déployé avec nous. Et j'ai reçu pour mission d'aller reconnaître l'entrée d'un wadi, d'un...
D'accord, un wadi, c'est un petit ruisseau, mais souvent à sec, quoi. C'est une vallée, quoi. Une sorte de mini-vallée, quoi.
C'est ça, l'entrée d'une vallée, pour aller d'abord nous assurer de l'accès à cette vallée, et ensuite essayer de voir s'il était possible de prendre du renseignement, éventuellement de trouver des caches d'armes, du matériel, de la nourriture stockée par l'ennemi. Nous sommes donc partis conduire cette reconnaissance.
Donc vous êtes 30 hommes, plus derrière le peloton, mais qui n'est pas avec vous, qui suit derrière
Alors, nous sommes 30 hommes. En fait, je n'ai plus le chiffre exact, mais nous sommes une petite trentaine de commandos. Et j'ai également sous mon commandement un peloton qui est constitué de chars. En l'occurrence, c'était des chars MX-10. Et ces chars sont accompagnés de véhicules blindés, les VBL.
Des véhicules mais ils sont où, ce que je veux dire? C'est-à-dire, j'imagine que des commandos à pied, ça ne progresse pas exactement à la même vitesse que des AMX-10. Enfin,
Oui. En fait, ce jour-là, les commandos sont sur véhicules. Nous sommes véhiculés. Nous avons des petits véhicules légers qui nous permettent de conduire notre reconnaissance motorisée. C'est-à-dire qu'en fait, les distances sont réellement grandes et on bascule d'un point à un autre en véhicule. Et le commando, comme le soldat d'infanterie, débarque pour conduire la partie sensible de la reconnaissance.
Donc vous êtes une petite colonne, quoi, ce jour-là.
En fait, nous ne sommes pas en formation colonne parce qu'on garantit des capacités d'appui. On garantit notre capacité de manœuvre, etc. Mais on imagine donc des petits véhicules légers avec à leur bord des commandos qui manœuvrent, qui s'appuient mutuellement, qui font en fait simplement leur métier et qui conduisent leur reconnaissance, qui partent du désert et qui tranquillement rentrent dans cette vallée.
Et du coup, donc vous avez un objectif, un endroit où vous espérez découvrir des caches d'armes ou...
C'est ça, en fait on a un objectif qu'on peut considérer comme un point à atteindre, qui est notre limite, qui nous assure de remplir notre mission, c'est-à-dire reconnaître l'entrée de la vallée, et puis peut-être de trouver des caches, du matériel, des vivres.
Alors qu'est-ce que vous avez trouvé ce jour-là?
Eh bien, en fait, ce jour-là, nous avions trouvé plusieurs caches dans cette zone de transition, justement, entre le désert et la montagne, des zones qui sont parfois vertes. On avait trouvé plusieurs caches avec des groupes électrogènes, des vivres, et on sentait... Le fait qu'il y ait des groupes électrogènes cachés, etc., on sentait que c'était pas des habitants qui étaient partis en laissant derrière eux de quoi subsister, mais que c'était vraiment des caches à escient. Évidemment, ça avait aiguisé nos sens. On se rendait bien compte qu'il y avait certainement quelque chose, du moins qu'il y avait certainement un adversaire, peut-être en fuite, puisque nous ne l'avions encore pas vu. À ce moment-là, il n'y avait pas eu de combat au sol... entre les forces armées françaises et des forces rebelles.
Ah, du tout, depuis que... Il n'y avait rien eu.
Il n'y avait rien eu.
Ok. Donc là, vous arrivez, vous trouvez les caches. Déjà, c'est bête, mais vous en faites quoi? C'est-à-dire, vous les détruisez, vous les faites sauter,
Alors, il y a tout un tas de procédures quand on trouve du matériel. Et en fonction du besoin, en fonction de la dangerosité, en fonction de l'urgence, on peut détruire ou alors on peut récupérer... pour stocker, que ce soit après détruit. Et là, en l'occurrence, les caches que l'on avait trouvées dans le désert, tout le matériel qui avait été trouvé avait été détruit. Alors tout ça, en gardant des traces de ce que l'on détruit pour pouvoir d'une part avoir un bilan et puis derrière faire les estimations pour savoir qui, combien de personnes étaient en face. Donc le matin, nous avons commencé notre reconnaissance, trouvé un peu de matériel, et puis nous arrivons dans l'entrée d'une des grandes vallées qui traverse le massif des Iforas. Il y a 5 grandes vallées qui traversent ce massif d'ouest en est, en l'occurrence le sens que nous empruntions. Et au moment où la montagne commence à réellement prendre la place du désert, mon élément de tête se fait prendre à partie par un adversaire que l'on n'a pas encore ni décelé, ni identifié.
Donc l'élément de tête, c'est le premier véhicule léger.
Exactement.
Et il se fait prendre à partie, ça veut dire qu'il se fait tirer dessus.
Oui.
Mais alors, est-ce qu'il se fait tirer dessus à la Kalachnikov, à la mitrailleuse légère, ou est-ce que c'est de la 12-7, déjà un truc un peu plus gros? Est-ce que vous avez déjà un indice de quel type d'accrochage ça va être?
Oui, à ce moment-là, on se fait tirer dessus avec mitrailleuse légère et mitrailleuse lourde.
Donc ça veut dire qu'ils sont déjà, il y a déjà un point, quoi. C'est pas seulement un type qui est sorti de chez lui et qui tire au hasard, quoi.
C'est ça. Dès le début, on sait que ça n'est pas un tir d'opportunité, mais qu'il y a quelque chose. Alors quelque chose, ça peut être simplement un point pour nous freiner. Ça peut être une résistance dure. Et donc, comme je vous l'ai dit, jusqu'à présent, il n'y avait pas eu de combat au sol. On trouve donc l'ennemi. Et on ne sait pas s'il va y avoir une résistance dure. Le fait que ce soit une mitrailleuse lourde qui nous accueille nous laisse croire que potentiellement, ce sera le cas. Et c'était effectivement le cas. Assez rapidement, j'ai les premiers comptes rendus de mes commandos.
À la radio. Vous êtes loin?
Ah non, je suis juste derrière en véhicule.
C'est-à-dire, vous voyez le truc ou...
Moi, j'ai une vision complète sur cette entrée, ce début de vallée, avec les deux massifs qu'il aborde, au nord et au sud. Et je vois la situation, j'ai les comptes rendus, je vois les équipes manœuvrer, les gens font leur travail, et ils font exactement comme à l'entraînement. Et moi, c'était pas la première fois que j'avais ce sentiment-là, et c'est quelque chose de fort, c'est que à la guerre, ce qui ressort, ce sont les automatismes, les habitudes, les entraînements.
C'est-à-dire qu'ils ne seront pas paralysés par le fait que c'est vrai pour...
Pas
cette fois, c'est vrai.
Déjà, ce sont des soldats aguerris.
Ouais.
Ce sont des soldats aguerris. Donc, ils ne sont pas paralysés. Et puis surtout, ils restituent les réflexes, les automatismes, les habitudes. On dit souvent entraînement difficile, guerre facile. C'est bien faux, parce que si la guerre était facile, ça se saurait. Entraînement difficile, victoire possible, est plus juste. Et c'est vraiment ce que j'ai vécu en tant que chef sur le terrain à ce moment-là, au contact de l'ennemi, sous le feu, avec mes commandos, mon peloton de cavalerie.
Donc là, il y a les tirs qui arrivent,
oui.
De quelque part, vous ne savez pas encore où, forcément. C'est quoi
en
le...
En fait, si, on sait rapidement. Quand on se fait tirer dessus, d'une part, il y a des traces, on voit les départs de coups, on peut voir des impacts... il y a le son, et puis les sens sont aiguisés, donc on trouve l'origine.
C'est quoi le prochain mouvement? Qu'est-ce qui se passe après?
Mais en fait, quand on trouve l'origine du tir, on se rend compte qu'il y a plusieurs origines du tir. Et donc ça confirme le sentiment premier, ok, on a trouvé, et c'est pas ce que l'on appelle une sonnette, c'est-à-dire quelqu'un qui vient simplement nous empêcher d'avancer et qui signale aux autres notre présence, c'est vraiment un point dur. Et assez rapidement, mes commandos manœuvrent, ils commencent par se désengager du feu ennemi, c'est-à-dire ils font en sorte de ne plus être menacés, ou du moins de l'être moins et de pouvoir eux-mêmes réagir. Et j'ai à peu près deux équipes commando réparties schématiquement, une au nord, une au sud de cette vallée que nous empruntions, que nous reconnaissions d'ouest en est, et les comptes rendus me font comprendre que non seulement il y a plusieurs origines du tir, mais que l'ennemi aussi manœuvre. Le fait que l'ennemi manœuvre me fait comprendre deux choses. D'abord, qu'il nous attendait, il nous avait vu arriver, il s'attendait à ce que l'on arrive un jour, il était installé, donc effectivement on est tombé sur quelque chose de dur.
Il a déjà son mouvement prévu, il a déjà anticipé le truc, quoi.
Exactement, il a anticipé. Ce qui est sûr, c'est qu'il ne faut jamais considérer que l'ennemi est plus bête que nous ne le sommes. L'ennemi, il est comme nous, c'est sa peau qu'il risque. Donc il a préparé son affaire. Donc il nous attendait, il savait qu'un jour on arriverait. Est-ce qu'il nous a vu venir ou non ? Nul ne sait. Le fait est qu'il avait préparé son système de défense et il l'avait préparé de façon mobile. Donc assez rapidement, je comprends que l'ennemi est en train de se déplacer par le nord, de se déplacer par le sud, tout en interdisant une progression vers l'est. C'est-à-dire que la vallée nous était interdite, on ne pouvait plus rentrer dedans, et en s'appuyant sur les couverts, les petites zones vertes qu'il y avait au nord, et sur les massifs montagneux qu'il y avait au sud, l'ennemi était en train quasiment de nous encercler. Et ça, c'est arrivé assez vite. Et c'est un sentiment assez désagréable. On a comme une partie d'échecs mal engagée où on a joué des pièces majeures et qui se retrouvent déjà bloquées.
Donc l'enjeu, le danger, c'était qu'ils vous coupent de vos arrières, que vous puissiez plus vous engager.
Exactement.
Quoi.
Ouais. Exactement.
Et alors comment vous faites pour, comment vous avez fait ?
Alors à ce moment-là, déjà je bénéficie, puisque j'avais un peloton de cavalerie avec moi, je bénéficie d'un appui direct qui est très puissant. La puissance des tirs des chars permet tout de suite de reprendre un ascendant sur l'ennemi, au moins un ascendant moral. Et puis...
Oui, ça impressionne, quoi.
Ça fait du bruit, ça impressionne et ça fait du dégât.
Même si vous ne tirez pas au but, ça modifie quand même l'équilibre du truc, quoi.
Alors, quand bien même on ne tirait pas au but, ça modifierait effectivement l'équilibre général du combat. Le fait est que nous avions été engagés à très courte distance, c'est-à-dire que nous étions à ce moment-là à 300 mètres de l'ennemi. La cavalerie était à peine derrière. Les optiques permettent une visée très nette et très précise, et donc des tirs efficaces. Des tirs efficaces avec des premiers éléments ennemis qui sont détruits, selon le langage militaire, c'est-à-dire que l'ennemi est tué, il est abattu dans sa cache. Et ça nous donne la bouffée d'oxygène nécessaire pour réagir. Je décide à ce moment-là de regagner du terrain et j'envoie une de mes équipes commando s'emparer d'un des monts qui borde la vallée. C'est donc un gros tas de roches très cassantes, très difficiles d'accès. Et j'estime que si mon équipe commando parvient à se saisir de ce petit piton, on reprendra l'avantage, on aura une vision un peu plus claire de la situation générale et surtout de ce qu'il y a derrière, puisqu'on ne sait pas ce qu'il y a derrière. Cette équipe saisit le piton et observe derrière des mouvements, c'est-à-dire qu'il y avait moi... de là où j'étais, c'est-à-dire dans les 400 mètres des points de contact, une première ligne ennemie qui s'était dévoilée et qui avait déjà été prise à partie par nos forces, nos commandos et notre cavalerie. Mais derrière les premiers mouvements rocheux, il y avait des hommes en mouvement qui venaient reprendre les postes de combat qui étaient vidés de leurs combattants.
Ils avaient de la réserve. Quoi.
Ils avaient de la réserve, ils étaient nombreux. Le fait de s'emparer de ce petit mouvement de terrain nous redonne effectivement de l'oxygène. On a pu le faire alors effectivement grâce à l'appui de la cavalerie, mais aussi grâce à un appui aérien. On arrivait à l'entrée de cette vallée après une longue reconnaissance, donc de wadi en wadi, de petits cours d'eau parfois asséchés en petite vallée, et on avait bénéficié tout au long de cette reconnaissance d'un appui aérien qui venait de nous quitter puisqu'il avait consommé son temps de vol disponible.
Donc l'appui aérien, c'est forcément la LAD, donc l'aviation légère de l'armée de l'air.
Non, c'était l'armée de l'air.
Mais donc c'était des hélicoptères
C'était des avions. D'accord. C'est des avions de chasse qui nous donnaient du renseignement. Ils nous donnaient le renseignement qu'ils pouvaient obtenir, mais l'ennemi étant, L'ennemi étant intelligent, il avait su se faire discret. Et surtout.
Oui, par ailleurs, un avion de chasse, ça passe vite, donc ça.
Oui, mais l'avion a la capacité de déceler le mouvement. Surtout quand on entre dans une vallée comme ça, il sait exactement où regarder. Donc, non seulement il décèle le mouvement, mais il est équipé de caméras qui lui permettent d'identifier. Et donc, il peut nous prévenir d'une menace, nous dire j'ai une suspicion, attention, je vois un véhicule, je vois un poste de combat, etc. Là, il se trouve que juste avant d'arriver à l'entrée de cette vallée, l'avion avait dû partir pour refueler, c'est-à-dire faire le plein de carburant. Il avait consommé son temps de vol à notre profit. Et donc, mon spécialiste au sol, qui est un artilleur, qui est un contrôleur aérien de l'avant, qui est en contact avec les pilotes, rappelle en disant que nous sommes au contact et que nous voulons bénéficier de leur appui. Le pilote est revenu et il a pu délivrer ses bombes sur les objectifs qui ont été identifiés, ce qui nous a permis justement de saisir ce premier piton. Voilà. La conjugaison à la fois de l'appui aérien, d'un appui terrestre puissant, et puis la volonté des hommes au sol de passer rocher après rocher pour aller saisir de ce piton.
Donc ça fait basculer, quoi. Ça a été un
bouffée de jalon.
Ouais. Ouais. Et du coup, à ce moment-là, quoi, ils font retraite stratégique.
Alors là, dans la tête du chef tactique que j'étais à ce moment-là, je me dis c'est le moment où je vais pouvoir faire une évaluation de la situation.
Et savoir, si, tout à l'heure je parlais des ennemis, mais vous, de savoir s'il faut se retirer ou si on peut encore prendre cette vallée, quoi.
Ben, en fait, dans le pire des cas, ce serait choisir, moi, de me désengager du combat pour demander un renfort et puis pour pouvoir remplir ma mission. Ma mission n'est pas annulée, je dois reconnaître cette vallée. Dans le meilleur des cas, c'est me saisir de cette partie de terrain, cette partie de la vallée, et puis demander, encore une fois, les besoins nécessaires pour prolonger ma reconnaissance. L'articulation que nous avions, c'est-à-dire l'organisation des troupes au sol, m'avait fait bénéficier d'un officier qui était juste derrière moi, à 500 mètres, et qui était le responsable du détachement. Et lui, il a pu, dès que nous avons été au contact, appeler justement, faire une demande de renfort pour que d'autres pelotons de cavalerie nous rejoignent, pour qu'on puisse bénéficier d'un appui aérien plus longtemps, faire venir des besoins d'évacuation sanitaire en cas de besoin.
Et donc, vous l'avez pris cette vallée ?
Et donc, cette vallée, j'allais justement pouvoir estimer raisonnablement comment conduire ma mission, lorsque le cours des choses a changé, puisque un de mes soldats a été blessé. Un des soldats qui venait de s'emparer du piton a été blessé. On m'annonce sa blessure à la radio. Et assez rapidement, on m'annonce qu'il est mort. Et en fait, quand vous avez un blessé à gérer, et quand vous avez un mort à gérer, bien que la mission soit prioritaire, la façon de conduire la mission n'est pas la même. Le blessé, il doit être évacué. On remplit la mission, évidemment, mais l'objectif est quand même de pouvoir sauver le blessé. C'est d'ailleurs cette espèce de garantie qui joue sur la confiance, la fraternité d'armes, et qui est à la base des relations de commandement que nous avons dans l'armée française. Lorsque j'ai su que j'avais un blessé, j'ai donc fait remonter l'information à l'échelon supérieur, de manière à ce que lui, il puisse demander les moyens d'évacuation, puisque moi, j'étais encore en train de gérer le combat. Combat qui non pas par chance, mais finalement par effet attendu, redevenait en notre faveur, puisque nous étions emparés du piton. Et lorsque j'ai appris par la suite que mon soldat blessé était mort, ça a encore une fois changé ma façon de procéder, puisque il n'était absolument pas question de l'abandonner, mais l'urgence venait de changer. Et donc les combats ont continué. Les combats ont continué pendant 3 heures. Et 3 heures à faire voler de la ferraille, c'est long, c'est fatigant. Moralement, ça demande une acuité, une confiance très développée. Ça demande une coordination au sein de la troupe qui est connue, qui ne laisse pas à désirer. Ça demande une confiance, moi, dans mes subordonnés, pour leurs capacités, pour les comptes rendus qu'ils me font, mais également de la part de mes subordonnés, d'être sûr que moi, je saurais aller jusqu'à la victoire. Et donc, malgré la difficulté du terrain, malgré le temps de l'action qui a été très très long, malgré l'adversité qui nous était opposée, malgré le mort que nous avons eu, nous avons réussi à tenir le terrain, à remplir notre mission, qui s'est trouvée par la suite modifiée. On nous a demandé de tenir le terrain et de ne pas aller plus en avant. Et on l'a réussi simplement parce que on a fait comme à l'entraînement.
C'est-à-dire, alors c'est très intéressant ça, mais du coup l'articulation entre tout est réplicable à l'entraînement, enfin peut-être pas se faire tirer dessus à la mitrailleuse lourde, mais un peu quand même. Le mort, non. C'est-à-dire au moment où vous perdez un homme, est-ce que cette idée, enfin ce sentiment que vous nous avez décrit tout à l'heure, que ça se passe comme à l'entraînement, est-ce que ça change ou est-ce que ça reste parce que bah, le fait que ce que vous disiez, quoi, il y a de la ferraille qui vole, fait qu'on reste quand même dans les réflexes un peu reptiliens de l'entraînement.
Eh bien, en fait, on reste dans l'entraînement parce que on est habitué à l'entraînement, à simuler un blessé à évacuer, à aller chercher au contact, un mort à aller récupérer, à extraire, et puis à renvoyer sur les lignes arrière. Et même si la réalité, le principe de réalité se dresse devant nous brutalement, on sait qu'on a un objectif, c'est l'accomplissement de la mission. J'ai vraiment eu le sentiment ce jour-là de conduire au feu une confrérie de guerriers, une confrérie de soldats entraînés, de gens qui sont des professionnels, qui savent ce qu'ils font, ce qui donne d'ailleurs au chef une grande confiance en lui, ça aide. Et avec eux, on a en fait conquis cette entrée de vallée, on a en fait extrait notre mort au combat. On s'est réarticulé, des renforts sont arrivés au bout de 3 heures de combat, on s'est réarticulé, on a reçu une nouvelle mission qui consistait notamment à garder la surveillance de cette vallée et que la cavalerie a assuré. Et tout ça a pu se faire de façon très professionnelle, dans le sens où il n'y a pas eu d'hésitation. Il n'y a pas eu de doute, et notre seul objectif était l'accomplissement de la mission.
Et du coup, la dimension, donc on a bien compris que la partie tactique c'était intégré à l'entraînement, mais du coup la dimension presque métaphysique, quoi, de perdre un homme, c'est venu plus tard, je sais pas, le soir en rentrant, enfin à quel moment est-ce que, puisque on a bien compris qu'il y a une partie qui était intégrée, quoi, fonctionnellement, à quel moment est-ce que ça tape, ce truc-là ?
Alors écoutez, je pense que le retour brutal dépend de chacun. En revanche, la dimension métaphysique, elle était intégrée depuis bien longtemps.
C'est-à-dire que vous aviez déjà songé à la possibilité de perdre un homme au feu, c'était déjà anticipé dans votre tête, quoi.
Oui, deux choses m'avaient amené à ça. D'abord, ma formation, en école initiale de formation d'officier, on réfléchit beaucoup à ces sujets-là. Il y a toute une partie liée à l'éthique de la guerre, le droit de la guerre, mais aussi l'éthique du soldat. Et puis, il y a un rapport, justement, à la mort. La spécificité militaire, c'est avant tout le droit, évidemment, dans le cadre d'une mission et sur ordre, le droit d'utiliser la force pour donner la mort. Et ce droit, on l'a parce que nous-mêmes, on s'expose et qu'on risque de la recevoir. Cette dimension métaphysique du rapport à la mort, je l'avais déjà appréhendé dès ma formation. Et la deuxième raison, c'est simplement que j'étais fantassin et que le métier du fantassin, c'est ce qu'on appelait les 300 derniers mètres. Certains ont voulu mettre un peu plus de distance, mais les combats que nous avons connus au Mali nous ont bien plus rapprochés que ça de l'ennemi.
Et enfin, dernière question, donc c'était en 2013, donc vous étiez chef de bataillon, vous étiez jeune capitaine à l'époque.
Jeune capitaine.
Oui, parce que j'allais dire, vous êtes aujourd'hui chef de bataillon, sans vouloir, à cause de tourner à l'école de guerre, on n'est pas non plus d'un âge canonique, donc vous étiez jeune à l'époque. Oui. Avoir jeune une expérience comme ça, de perdre un homme, même si on intègre le risque avant. Ça fait quoi depuis? Enfin, comment ça vous a accompagné dans votre métier de mener des hommes au combat depuis?
Perdre un homme au combat, jeune ou pas jeune, je ne sais pas si ça fait la différence. Ce qui fait la différence, c'est la préparation. La préparation intellectuelle, morale, et puis la capacité de chacun d'affronter cette épreuve. C'est une épreuve. C'est une épreuve un peu comme une charge que l'on porte. C'est aussi une grande réalité et c'est aussi ce qui se passe dans la guerre. On ne peut pas conduire des opérations sans être intimement persuadé que faire la guerre, ça tue. Cette mort que j'ai connue assez jeune, eh bien, d'un côté, c'est quelque chose que je porte, mais en fait, ça fait simplement partie de mon expérience militaire.
Très bien. Merci beaucoup, Mandolin.
Je vous en prie.
Selling a little? Or a lot? Shopify helps you do your thing however you cha-ching. Shopify is the global commerce platform that helps you sell at every stage of your business. From the launch your online shop stage to the first real life store stage. All the way to the did we just hit a million orders stage. Shopify is there to help you grow. Shopify helps you turn browsers into buyers with the internet's best converting checkout. 36% better on average compared to other leading commerce platforms. Because businesses that grow, grow with Shopify. Get a $1 per month trial period at shopify.com/work. Shopify.com/work.